Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jouer, c'est un moment de partage, d'échange. Il faut trouver vraiment le bon moment. Ça, c'est la plus grande difficulté, je trouve.
Pour l'enfant, c'est vraiment très sérieux pour son développement, effectivement. C'est vraiment une activité qui est plus exploratoire. Quand on étudie un petit peu son type de jeu, son type d'humour aussi, on a un grand accès à sa qualité de développement et aussi, bien sûr, à ses conflits intérieurs.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Victorine.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Victorine ?
Bah écoutez, je viens vous voir parce que je souhaiterais avoir des conseils, notamment sur le jeu chez l'enfant. L'objectif pour moi, c'est effectivement d'avoir des conseils auprès d'une spécialiste, d'une experte dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, parfois, il m'arrive de me questionner sur quels sont les meilleurs jeux pour mes deux enfants qui ont 7 et 5 ans.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous jouez avec vos enfants ?
Alors oui, je joue avec mes enfants. Après, c'est vrai que jouer, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, c'est vrai que je peux jouer aux jeux de société, mais c'est pas inné non plus chez moi. Actuellement, mes enfants sont vraiment dans une période spirit, donc poney, cheval, etc. Pour moi, jouer au poney, c'est assez compliqué. En revanche, quand je joue avec mes enfants, c'est vraiment, je suis plus à vouloir les conseiller, les accompagner, leur montrer des jeux, plus que de jouer en tailleur avec elles dans leur chambre.
Et ça consiste en quoi pour vous les accompagner ? C'est-à-dire que vous posez un cadre ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Alors, il y a une période où ma deuxième fille me disait assez régulièrement « Maman, je ne sais pas quoi faire ». Et c'est vrai qu'en fait, elles ont énormément de jeux. Et c'est vrai que moi, mon rôle, enfin ce que je fais et que j'aime faire, c'est essayer de sortir les jeux de leur chambre, essayer de les ouvrir et de leur conseiller, leur proposer. Donc, c'est-à-dire de commencer à jouer avec elles, de faire des cabanes avec elles, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce n'est pas raconter des histoires, jouer à la poupée, me mettre à quatre pattes pour jouer au poney. Ce n'est pas forcément évident pour moi. Voilà, je suis plus à vouloir leur montrer les choses et les accompagner.
Donc, ça serait plus facile pour vous, par exemple, de jouer à un jeu où il y a une règle établie comme un jeu de société, plutôt que d'être dans un jeu plus d'imagination, où on va inventer des histoires, un univers, ou faire jouer des personnages.
Exactement, voilà, exactement. Donc, effectivement, les jeux de société comme, par exemple, le domino, le mikado, les Monopoly, tout ça, c'est quelque chose qui est assez facile pour moi. Après, c'est vrai que quand ça sort un peu du cadre, j'aime bien, c'est-à-dire parfois le week-end, mettre de la musique un peu fort et danser avec les enfants, ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que tout le monde se lâche. Pour moi, avant tout, jouer, c'est vraiment un moment de partage et d'échange. Il faut que ça soit un plaisir avant tout. Je sais que c'est de l'apprentissage, c'est pour aider, accompagner les enfants dans leur développement. Mais pour moi, c'est vraiment que ça soit un moment de plaisir, qu'on se lâche et il faut trouver vraiment le bon moment. Ça, c'est la plus grande difficulté, je trouve, en tant que maman, c'est effectivement de trouver le moment où on est disposé à jouer avec elles et à ce que ça fasse plaisir à l'une comme à l'autre.
Est-ce que là, vous parlez des jeux plus familiaux ? Est-ce que le père, votre conjoint, il joue aussi avec ses filles ? Est-ce que vous jouez tous ensemble ?
Alors oui, 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 mon mari joue parfois avec elle. Alors lui, il a envie de développer la curiosité de nos filles. Et du coup, c'est vrai qu'il aime bien diversifier. Alors lui, il est plutôt en extérieur, jouer au ballon, courir, cache-cache, etc. Parfois, il lui arrive dernièrement de faire des crêpes, par exemple, de cuisiner avec mes filles. Ou alors là, actuellement, on a au niveau de la musique, on a un piano depuis peu de temps. Et c'est vrai qu'il a trouvé une application qui permettait aux enfants de d'initier avant d'avoir trouvé éventuellement une professeure. Mais
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose quand vous jouez avec vos filles?
Oui, 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 effectivement, quand je joue avec mes filles, je ressens beaucoup de bonheur de leur côté et du mien aussi, de les voir toutes heureuses, de me voir vraiment impliquées. Et ça fait plaisir et c'est réciproque et c'est ça l'idée aussi.
De faire des jeux séparés avec chacune de vos filles, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire? C'est pas toujours simple.
Oui, alors j'arrive parfois, quand il y en a une qui a un anniversaire ou qui n'est pas là, c'est plus facile. Mais en règle générale, clairement, quand maman ou papa est dans la chambre, c'est sûr qu'elle s'accapare de l'un ou de l'autre. Alors parfois, j'essaie de trouver des jeux qui correspondent aux deux, notamment par exemple le Memo ou alors des jeux comme le Uno. Ça marche très bien en ce moment. Mais c'est vrai que en règle générale, on arrive à jouer à trois. Alors après, il faut un cadre, ça c'est certain. Ça peut arriver, on peut arriver à des petites disputes, surtout sur la fin du jeu. Mais il faut pas que le jeu soit trop long, parce que là, pour ma deuxième fille, parfois ça peut partir un peu en dispute.
Mais... C'est la longueur du jeu qui va susciter la dispute ou il peut y avoir d'autres choses?
Parfois, c'est la longueur, parce que c'est toujours exemple les petits chevaux. On fait pas ça non plus aussi tous les week-ends, mais je prends cet exemple-là parce que c'était la dernière fois, ça a été long. Et après, en fait, c'était l'heure du dîner et elle voulait retourner et finir le jeu. Finalement, on n'a pas eu le temps de le finir. Et du coup, effectivement, j'avais pas forcément dit qu'après le dîner, on allait arrêter le jeu. Donc là, ça a été assez compliqué. Mais je pense qu'effectivement, il faut poser le cadre dès le début et dire que le jeu, il est comme ça. L'idée, c'est de se faire plaisir et que ça ne finisse pas en dispute parce qu'après, ça ne donnera pas envie finalement de rejouer ensemble. Donc autant que ça se passe bien pour pouvoir réitérer l'expérience.
Du coup, quand vous posez ce cadre, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Déjà, je leur dis que je suis très contente de jouer avec elles. J'espère que c'est réciproque, donc elles sont toutes excitées. Et que l'idée, c'est vraiment de s'amuser. Je leur explique la règle du jeu, si c'est des pions ou si c'est des cartes. Et à partir de là, on joue et ça se finit. Il y a un gagnant, il y a des perdants. C'est pas grave si on a perdu. On recommence le même jeu, parce que souvent, il y a effectivement ce côté répétition. Quand le jeu est très court, on en fait plusieurs. Finalement, ça revient à un jeu long. Mais ça permet effectivement de couper quand le jeu est trop long. Donc les disputes, je pense que ça arrive parce que soit il y a la fatigue de fin de journée, soit c'est l'heure du dîner. Mais globalement, ça se passe plutôt bien.
Elles acceptent de perdre?
Ah, ça dépend pour qui. Mais globalement, c'est compliqué de perdre, n'est-ce pas? Mais quand c'est moi qui perds, ça rassure tout le monde. Donc en tant qu'adulte, je comprends.
Et vous, est-ce que vous acceptez de perdre?
Évidemment, je montre l'exemple.
Vos filles, en dehors de ces moments où vous jouez avec elles, est-ce qu'elles arrivent à jouer toutes seules ou est-ce qu'elles sont toujours demandeuses finalement que vous jouiez avec elles?
J'ai un peu analysé les filles hier pour un peu voir de plus près. Et c'est marrant parce qu'elles étaient en train de faire un troupeau, parce qu'elles sont donc, comme je vous disais, dans les poneys. Et donc, elles s'inventent des histoires en ce moment. C'est absolument incroyable. Il y a des cabanes, il y a les talkie-walkie, il y a l'espionnage. Enfin, elles s'inventent vraiment des histoires. Là, en ce moment, je pense qu'on est complètement dans les histoires, dans les cabanes, dans les animaux. C'est sympa. Donc, pour le coup, ça se passe bien. Après, effectivement, vu que c'est pendant la semaine, donc à l'école, le soir, elles sont un peu fatiguées. Mais c'est vrai qu'après le bain, elles arrivent un peu à s'amuser comme ça. Après, le moment agréable, c'est le moment des histoires. Et c'est un moment très agréable parce que chacune a le choix de son histoire. Et moi, je suis avec elles. Et c'est un moment de partage que je considère un peu, pas forcément un jeu, ou peut-être un jeu calme.
Malgré leur différence d'âge, elles arrivent à jouer ensemble? C'est un peu ce que vous nous disiez là. Elles sont toutes les deux dans cette période poney. Elles inventent des histoires ensemble. Est-ce que finalement, il y a une forme d'autogestion entre elles?
Alors oui, elles arrivent à jouer ensemble le soir. Effectivement, quand elles sont à peu près dans le même état, c'est-à-dire un peu fatiguées ou contentes de se retrouver, il y a aucun souci. En revanche, effectivement, ça peut assez vite monter parce que c'est l'heure soit du bain, donc est-ce qu'elles prennent le bain en même temps ou est-ce que c'est l'heure du dîner? Elles veulent pas aller dîner, il y en a une qui veut suivre et pas l'autre. Donc globalement, je dirais que elles jouent bien ensemble, mais pendant un quart d'heure, ça va, ça peut partir. partir parce que l'aînée a dit à sa sœur qu'il fallait faire ça et pas ça, et elle, elle veut pas. Et donc, du coup, sa communication, c'est peut-être parfois de crier. Donc, bref, ça met un peu d'animation le soir. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut se reproduire. Après, elles sont deux, donc peut-être qu'avec 3-4, c'est autre chose. Mais en l'occurrence, là, avec deux, c'est un compagnon, c'est vraiment sa sœur. Donc, elles se cherchent en permanence. En même temps, elles peuvent se disputer comme toutes sœurs entre elles, quoi.
Bien sûr. Merci beaucoup, Victorine. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte, Héloïse Junier. Bonjour, Héloïse Junier.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes docteur en psychologie, psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice, conférencière, journaliste scientifique, autrice de plusieurs ouvrages. Alors, il y a le manuel de survie des parents, des clés pour affronter toutes les situations de 0 à 6 ans chez Interédition. Le guide très pratique pour les pros de la petite enfance aux éditions Duno. Et votre petit dernier, qui est une BD remarquable, Ma vie de bébé de 0 à 3 ans, le mystère de son petit cerveau en développement. Vous avez également fondé la communauté Facebook La Psy Contre-Attaque. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne de nombreux parents qui peuvent exprimer cette difficulté à jouer avec leurs enfants et le fait qu'ils n'ont pas toujours de plaisir à le faire, qu'ils n'y voient pas forcément non plus l'intérêt. Pour autant, on entend beaucoup que les spécialistes de la petite enfance soulignent bien l'importance du jeu, de la créativité pour le bon développement de l'enfant. Nous allons donc, avec vous, Héloïse, essayer d'y voir plus clair. Tout d'abord, Héloïse, qu'est-ce que c'est que le jeu? Qu'est-ce qu'il définit?
À la base, le jeu, c'est vraiment une activité qui est purement libre et gratuite, entre guillemets. Gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de visée de production, il n'y a pas de visée de résultat. À la base, le jeu, c'est ça. Mais après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, la notion de jeu pour l'adulte, c'est pas vraiment la même que pour ça pour l'enfant. En fait, pour l'adulte, il y a une dimension qui est ludique, qui est très importante. Parce que quand un adulte joue, c'est pas la même chose que quand un enfant joue. Alors, pour l'enfant, c'est vraiment très sérieux pour son développement, effectivement. Et c'est vraiment une activité qui est plus exploratoire. Donc, la notion de jeu pour l'adulte, j'ai l'impression que des fois, elle a tendance un peu à désacraliser le côté sérieux de l'activité de jeu pour l'enfant. Aujourd'hui, on a du mal à distinguer l'exploration de l'enfant du jeu. Par exemple, quand un enfant, je sais pas moi, 2 ans, il remplit un seau avec du sable, il le vide, il le remplit, il le vide, il manipule, il transverse. Est-ce que c'est l'exploration? Est-ce que c'est du jeu? Ça, c'est difficile de savoir. La délimitation est difficile à déterminer.
Victorine nous parlait des jeux de société, en effet de ces jeux libres où ces filles inventent des histoires. Vous parliez aussi du piano. Voilà. Est-ce que l'activité comme le piano, est-ce que c'est un jeu par exemple?
Tout peut être un jeu en fait. Tout dépend en fait de ce qu'on y fait, ce que l'enfant y fait, ce qu'il y met comme intérêt et surtout ce qu'on attend de lui ou pas. Mais et finalement après tout dépend aussi du type de jeu, si c'est un jeu de règles ou pas de jeu de règles. Mais c'est vrai qu'en tout cas tout reste du jeu du moment que c'est un peu d'exploration, on va dire, libre et gratuite de la part de l'enfant. Sachant que vraiment dans le terme de jeu, ça reste quand même une connotation très adulte. Et finalement, est-ce qu'un enfant joue réellement? Enfin, c'est plus compliqué je trouve chez l'enfant en fait. C'est un mot qui est un peu galvaudé, le mot de jeu.
Et du coup, Héloïse, à quoi il sert dans le développement de l'enfant? À quoi ça sert de jouer?
Alors, le jeu, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctions, en fait. Tout dépend de ce qu'on fait comme type de jeu, mais ça a beaucoup de fonctions. Ça développe les connaissances de l'enfant, ça développe sa concentration, son langage. Enfin, on verra tout à l'heure aussi tout ce qui est l'ordre de la créativité. Ça bénéficie aussi sur tout ce qui est le champ des émotions. Il peut exprimer, décharger ses tensions, ses émotions. Par exemple, je me souviens d'une fois, un parent m'avait raconté que sa petite fille, elle avait 3-4 ans, elle jouait à la poupée tranquillement. Et en fait, la poupée avait comme prénom le prénom de son petit frère. Et du coup, elle jouait avec la poupée devant le regard attendri de ses parents. Et d'un coup, la petite fille, elle prend la poupée, elle la jette sur la baie vitrée du salon. Les parents, ahuris, me disaient, mais c'est pas possible, elle est violente. Et en fait, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le jeu a énormément de fonctions, mais aussi sur le plan de la décharge. Et enfin, vraiment, l'enfant nous ouvre en fait, une porte de son imagination quand il joue, finalement. Et de ses conflits intérieurs, de sa vie psychique, finalement. Donc, c'est très intéressant d'observer un enfant jouer. Et c'est vrai qu'en crèche, moi, j'ai longtemps, vous savez, les enfants jouer. Et je pense vraiment que quand on voit un enfant jouer, quand on étudie un petit peu son type de jeu, comme son type d'humour aussi, on a un grand accès à sa qualité de développement et aussi, bien sûr, à ses conflits intérieurs. Très intéressant pour un psy.
Et dans l'exemple que vous prenez, là, j'imagine les parents, vous dites bien, voilà, choqués d'une telle agressivité. Dans ce cas-là, voilà, comment les parents doivent-ils réagir? Comment ils doivent se positionner par rapport à ça?
Pas brimer en fait. Déjà, ne pas interpréter l'activité de l'enfant comme une activité adultomorphe. En fait, c'est un adulte qui le faisait. Au contraire, je pense c'est laisser en fait l'enfant vivre son jeu comme il le veut, avec son imagination, sans ramener sans arrêt au réel. Sinon, il y a aussi ce besoin des fois de ramener au réel, alors que le jeu, c'est à la base de l'imaginaire et de la créativité quand même. Donc, du coup, laisser en fait l'enfant vivre son jeu avec ce poupon. Et après, pourquoi pas rebondir sur la question, bah voilà, comment ça se passe avec ton frère, t'as des choses à nous dire en ce moment? Ça peut être aussi une manière du coup de rebondir dessus. Mais pas le brimer en tout cas, c'est pas grave, il a le droit de défoncer le poupon sur la vitre. C'est pas grave, au contraire, il dit des choses.
Bien sûr. Et du coup, là, vous nous dites finalement que le rôle du parent dans le jeu, là, c'est pas forcément de jouer, mais d'observer et d'une certaine manière d'accompagner, d'entendre ce qui est dit par l'enfant à travers le jeu.
Oui, c'est ça, effectivement. Alors là, pour tout ce qui est jeu, par exemple, plus symbolique ou d'imitation, où l'enfant a une action qui, voilà, où il développe sa créativité, en fait, l'adulte a vraiment beaucoup, beaucoup de rôles différents à jouer dans le jeu de l'enfant. Et c'est pas forcément, je vais vraiment jouer avec lui. Souvent, les parents se disent, voilà, effectivement, je dois jouer avec mon enfant parce qu'il me réclame sans arrêt. Et c'est vrai que les enfants adorent ça, hein, Victorine a complètement raison. Mais en fait, le rôle du parent, c'est pas forcément ça. C'est aussi apporter un cadre qui va être déjà sécurisant, dans le sens où, en crèche, on voit bien, mais aussi dans certains foyers, quand l'enfant n'est pas vraiment sécurisé, quand il n'est pas bien, quand il n'a pas bien mangé, quand il est fatigué, il va se raccrocher de manière instinctive au bras de l'adulte, comme s'il voulait se recharger. Donc en fait, déjà, le premier cadre à porter, c'est un cadre sécurisant, déjà où l'enfant ne se sent pas en insécurité. Mais surtout, c'est se mettre en position phare. La position phare, c'est quand l'adulte se met à proximité de l'enfant, il va avoir un lien visuel avec l'enfant dans la même pièce, pas forcément envoyer l'enfant jouer à l'étage, et l'enfant va jouer du coup sous le regard balayé de l'adulte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Finalement, le parent peut préparer son dîner, par exemple, préparer le dîner, et l'enfant va jouer à côté, assis par terre.
Complètement, ouais, ça. Ça peut être vraiment une fonction de l'adulte, en fait, et commenter éventuellement ce que fait l'enfant s'il le souhaite. Et aussi, l'autre fonction, c'est surtout de ne pas déranger l'enfant. Alors ça, c'est vrai que c'est assez peu connu, mais en fait, un enfant qui est en train de se concentrer sur un jeu, il développe ce qu'on appelle son système d'attention focalisé, c'est-à-dire sa concentration, quoi, son attention. Et son attention-là, la capacité attentionnelle d'un enfant, est très, très liée à la réussite scolaire future. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque dans les recherches, c'est que plus l'enfant se concentre sur un jeu, sur une activité quelle qu'elle soit, plus il développe son attention qu'on appelle volontaire, et du coup, plus elle sera développée, et après, plus il pourra se concentrer sur un problème de maths, de lecture, plus tard. Donc, c'est vraiment intéressant en fait que l'adulte ne coupe pas en fait cette concentration. Parce que tous les temps où l'enfant se concentre, c'est vraiment du temps gagné pour ce développement de cette attention focalisée.
Là, dans ce que vous nous disiez par rapport au rôle du parent et donc du rôle sécuritaire, là, du coup, ça me fait penser à quelque chose par rapport à la définition du jeu, c'est-à-dire un jeu qui va mettre en danger, par exemple, jouer ou qui aura un risque, jouer avec un couteau, est-ce que c'est un jeu ?
Pour moi, c'est l'exploration.
D'accord.
L'enfant dirait que c'est un jeu, l'adulte, non, c'est un jeu dangereux, mais ça reste de l'exploration, à mon sens, oui.
Et Louise, à quoi doivent jouer les enfants finalement ? Parce que là, vous nous dites qu'il y a les jeux exploratoires, il y a les jeux avec des règles, les jeux d'imagination. À quel âge, finalement, si on devait mettre un peu pour avoir des repères, un âge et un type de jeu, voilà, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir ?
Et ben justement, je pense que vraiment, ce que je connais souvent aux parents en fait, qui cherchent à faire jouer leurs enfants, ou qui cherchent à renouveler les jeux de leurs enfants, en fait, c'est de ne pas, surtout pas se fier aux indications d'âge sur les boîtes de jeux. En fait, l'indication d'âge des boîtes de jeux, on a cette fâcheuse tendance en fait, à mettre des bornes partout, alors qu'à la base, le jeu, c'est une activité justement, qui est extrêmement libre et spontanée. Et par exemple, un jeu de Duplo, enfin, typiquement un jeu de Duplo, c'est bête, mais on s'est conseillé à 18 mois et plus sur la boîte de jeux de Duplo de la marque Lego. Et alors, en fait, ce jeu-là, il peut être hyper intéressant pour un bébé, par exemple, mettre à la bouche. Ça va être un jeu plus sensoriel. Ça peut être un jeu hyper intéressant pour un enfant de 7, 8, 10 ans, voire qui construit des tours. Moi, j'ai vu des après-ados s'éclater avec des duplos, qui font des tours de dingue, multicolores, ils font des jeux de combat autour. Enfin, je pense que chaque type de jeu, en fait, peut être renouvelé différemment selon selon la sensibilité de l'enfant et puis selon là où il en est en ce moment, en fait. Donc, ne pas se borner en fait, à des limites strictes et vraiment, au contraire, tout diversifier et surtout diversifier aussi l'apport de jeux. Ce n'est pas forcément des jouets qui sont tout faits avec des normes européennes qui sont les plus adaptées. Ça peut être juste, je sais pas, un pot de bois, ça peut être la terre, ça peut être un sac, une boîte en carton. Vraiment, tout est à diversifier, je pense. Donc, il faut vraiment ouvrir au maximum les limites qu'on se donne, nous, adultes. Et moi, en tant que maman, je fais pareil. Il faut vraiment que je m'ouvre aussi.
Oui, donc là, vous nous dites bien de aussi recycler finalement tout ce qui peut être utilisé dans l'environnement. Et il n'y a pas forcément besoin d'acheter des jeux. Alors, il peut y avoir besoin d'un certain matériel de base, mais il n'y a pas toujours besoin d'acheter. On peut aussi utiliser ce qu'on a à la maison.
Mais oui, et au contraire, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les meilleurs jeux, ce sont justement ceux qui ne sont pas dirigés. En fait, c'est ceux qui permettent à l'enfant une exploration complètement comment dire, complètement libre et créative. Mais par exemple, enfin, typiquement, beaucoup de parents nous disent, voilà, j'ai acheté un jeu pour mon enfant, il joue avec la boîte, il joue pas avec la poupée dedans, je suis dégoûtée, j'ai payé 40 euros chez Corolle. Bon, ben, voilà, je comprends. Mais en fait, l'enfant préfère la boîte parce qu'en fait, il a plus de manières de jouer avec. Ça suscite une plus grande créativité, une plus grande approche de la part de l'enfant. Donc, c'est plus stimulant pour son petit cerveau en développement. Donc, au contraire, moins on a des jeux qui sont dirigés, genre boîte, balle, terre, même gobelet, et plus ça sera profitable aussi pour son développement.
Du coup, tous ces jeux exploratoires, j'entends que c'est plutôt pour les petits. Est-ce que c'est quelque chose qui va finalement perdurer l'enfant grandissant ?
Oui, complètement. Ça perdure complètement chez l'enfant grandissant, à condition qu'on laisse une marge de manœuvre suffisante. Ce que je remarque, c'est que dans beaucoup d'établissements, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la maison, on va avoir tendance à avoir des règles sécuritaires et hygiénistes assez strictes qui vont encadrer, voire surencadrer le jeu de l'enfant. Par exemple, on va dire aux enfants des fois de salir, on va dire aux enfants de sauter sur le canapé, de monter sur les tables. Et en fait, ça, c'est du jeu, c'est de l'exploration libre et qu'un enfant de 5 à 10 ans font très bien si on les autorise à faire. Et je pense qu'en France, on a la tendance, on a le goût, on a l'obsession, je sais pas comment on dit ça, pour la sécurité physique d'une part et pour l'hygiène d'autre part. Et ça vient vraiment énormément brimer les enfants. Or, vraiment, dans les recherches, on voit que plus on les laisse, en fait, explorer selon leur propre principe, leur propre volonté, qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus grande est leur créativité. Et du coup, ils jouent aussi à ces explorations qu'on pourrait retrouver chez les plus petits. C'est vraiment aussi pour les grands. Mais il faut les parents les laisser ouvrir le cadre au maximum.
Oui, là, ça m'évoque des parents, en tout cas une maman que j'accompagne, qui me disait que pour elle, c'était insupportable que les enfants mélangent les jeux. Voilà, mélangent les Lego avec les Playmobil, qu'après, il fallait tout ranger, remettre chaque chose dans sa boîte, et que pour elle, c'était un enfer.
Je comprends, je vis la même chose tous les jours. C'est très difficile. Mais c'est ça, en fait. Croiser, en fait, les différentes catégories, c'est le propre de l'enfant, finalement. Au minimum, il faut les borner, finalement.
Et c'est amusant parce que ma fille aînée, il y a un an ou deux, c'est vrai qu'elle s'amusait à ranger sa chambre, elle était nickel. C'est-à-dire que je disais, c'est pas possible, faut que tu joues, ma fille, faut que tu joues. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, son objectif, c'était vraiment de ranger la chambre, qu'elle soit nickel. Et dès que sa sœur mettait un peu le bazar, ça n'allait pas. Donc là, maintenant, elle a compris, elle sort un peu, ça commence à être le bazar, c'est super. Et je préfère ça que ne pas jouer parce que justement, le jeu est important.
Là, vous nous parlez du jeu libre et voilà, de tout l'intérêt et l'importance qu'il a pour le développement de l'enfant. Qu'est-ce qu'il en est du jeu plus dirigé ? Là, du coup, je pense aux jeux de société, par exemple.
Alors, les jeux de société sont formidables, sont excellents. Et effectivement, d'ailleurs, on voit dans les recherches que plus l'enfant joue aux jeux de société en famille, et meilleur aussi les périodes scolaires. En fait, le jeu de société va mobiliser énormément de compétences d'ordre cognitif. Par exemple, ce qu'on appelle, nous, les psys, les fonctions exécutives, c'est-à-dire l'autocontrôle, le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive, la mémoire de travail. En fait, toutes ces fonctions-là, en fait, vont être développées, mises à mal dans le jeu de société et qui pourra après réintégrer dans sa vie de tous les jours. Donc, ça a énormément de bienfaits, effectivement, pour l'enfant. Et l'un des jeux qui a le plus d'intérêt, hein, en termes d'essais-erreurs, d'assemblage, de compétences spatiales, c'est le puzzle. Le puzzle, c'est excellent pour les enfants, et ça dès le plus jeune âge. En fait, vous voyez, le côté essais-erreurs où l'enfant essaie de mettre le pied dans une position, il n'arrive pas, hop, il développe du coup sa ténacité, mais aussi son autocontrôle. La répétition fait qu'il va vraiment réussir à appréhender le jeu pas par une réussite immédiate, mais par une réussite justement à moyen terme. Donc, c'est vraiment énormément d'atouts aussi pour lui. C'est vraiment des jeux qu'on conseille très souvent aux parents.
Donc là, vous nous dites, bon, que ça soit le jeu exploratoire ou les jeux plus dirigés, que ça permet de développer certains apprentissages, voilà, là comme la concentration. Quels peuvent être les autres apprentissages qui vont se faire à travers le jeu ?
Alors, le jeu aussi, c'est le langage, clairement. Le langage, quand il y a un adulte à côté. Mais typiquement, jouer à un jeu symbolique, poupée, dinette, on joue dans l'herbe, on raconte des histoires avec l'adulte, avec un communicant expert, hein, parce que la grande sœur, elle communique, mais elle communique pas aussi bien qu'un adulte. Elle n'a pas autant de vocabulaire, autant de syntaxe qu'un adulte. Donc, du coup, ça, c'est vraiment ce qui va permettre au mieux de favoriser le développement langagier d'un enfant. Et ça, c'est un atout pour sa vie, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un enfant qui parle bien, qui a un bon niveau de langage à l'âge de 2, 3, 5 ans, 7 ans, ce sera un enfant qui, plus tard, aura moins de périodes de chômage, qu'il y aura moins de problèmes de tics de santé, qu'il y aura des études secondaires plus avancées, plus poussées, etc. etc. Donc, il y a énormément de bienfaits sur le très, très long terme dans la vie d'un individu quand on mesure le niveau de langage d'un enfant. Donc, c'est très important de pouvoir de stimuler, en fait, dans le jeu. Après tout, c'est de varier. Effectivement, c'est pas que jouer à la poupée, sinon, les parents, ils finissent sous Prozac au bout d'une semaine. C'est beaucoup d'attention et d'énergie de notre part. Mais c'est vraiment de varier les supports, en fait. Un peu de jeu libre, un peu de jeu... un peu de jeu dirigé, un peu de jeu collaboratif, etc., etc.
En tout cas, là, vous nous dites, ça met une certaine pression, voilà, qu'il y a quand même un véritable enjeu à travers le jeu pour le développement de l'enfant. Ça a été prouvé par des études, j'imagine, ce que vous venez de nous dire.
Oui, oui, complètement. C'est, enfin, c'est extrêmement connu, en fait, l'importance du jeu de, pour l'enfant. Mmh. Et surtout, j'ai envie de dire, le côté société a été très prouvé, le côté aussi exploration libre a été extrêmement prouvé également. Après, l'idée, c'est pas de mettre une pression aux parents. Et c'est vrai que c'est difficile parce que souvent, quand on veut faire les choses bien en tant que parent, on se dit, voilà, faut jouer avec mon enfant, faut jouer avec lui, mais j'aime pas forcément jouer, je sais pas à quoi jouer. Et en fait, souvent, ce que je conseille aux parents, c'est de partir sur la base du plaisir partagé. Il faut vraiment trouver un truc qui vous, parents, vous mobilise, vous anime, vous fait plaisir. Genre, moi, j'aime pas jouer à la poupée, mais j'aime bien les puzzles. C'est mon truc. En fait, il faut que chaque parent, en fait, choisisse un jeu en fonction de son intérêt à lui, vraiment. Parce que sinon, il va passer des temps pas agréables et en fonction de l'intérêt de l'enfant. Faut pas se forcer, sinon, ça marchera beaucoup moins bien aussi.
Oui, ça aura un effet contre-productif, finalement, de se forcer.
Ouais, puis on va traîner la patte, ça va sentir, ça va être un moment de plaisir. En plus, l'intérêt du jeu aussi, c'est de créer un lien avec l'adulte aussi, un lien de plaisir partagé, un attachement. Ça favorise aussi ce plan-là. Donc, c'est intéressant que le plaisir soit vraiment partagé pour les deux côtés, finalement.
Tout à l'heure, vous nous parliez de la créativité. Alors, voilà, liée aussi à la question de l'imagination, suscitée notamment dans le jeu libre. Qu'est-ce que c'est que la créativité par rapport au jeu ?
Alors, la créativité, d'un point de vue vraiment cognitif pur, c'est vraiment le fait de générer des idées qui sont nouvelles. Un enfant créatif, c'est un enfant qui va générer des idées nouvelles par rapport à des idées plus anciennes. Alors que l'imagination, c'est encore différent. C'est vraiment la capacité de l'esprit de l'enfant, en fait, de la mentalité de l'enfant, à se déconnecter du réel. Tous les enfants ont une imagination qui est innée. En fait, c'est vraiment pour eux extrêmement facile. Pour nous, un peu moins, parce qu'on la perd avec le temps, parce qu'on se conditionne aux règles sociétales. La créativité, c'est différent. La créativité, on la développe plus ou moins, en l'occurrence. Alors que l'imagination, c'est vraiment quelque chose de commun à tous les enfants.
Et du coup, qu'est-ce qui va favoriser la créativité ?
Alors, je dirais d'abord, c'est la diversité des supports. Quand les parents jouent le jeu de laisser l'enfant au maximum, sans le brimer, vraiment en ouvrant le cadre d'exploration, sans le remettre toujours dans le réel, sans trop le déranger, ça, naturellement, en fait, l'enfant développe sa créativité et surtout sa capacité à être seul. Parce que les enfants qui arrivent à jouer seuls, à penser seuls, à créer seuls, ce sont des enfants qui auront une meilleure créativité. Et du coup, souvent, on se dit, voilà, mon enfant, il va rentrer, je sais pas, moi, en CP l'année prochaine, il faut que je stimule à fond, il faut qu'après les chiffres et tout. Non, des fois, on a envie de stimuler notre enfant. Et en fait, la stimulation va être pas forcément productive. Ce qui est intéressant, en fait, c'est quand l'enfant, justement, explore l'environnement ou joue avec l'environnement de manière vraiment très libre et spontanée. Les bénéfices sont plus favorables que si on mettait de manière descendante des connaissances dans la tête de l'enfant. Je sais pas si je suis claire, mais... Mmh.
Alors, du coup, pour revenir à cette question de comment les parents peuvent favoriser le jeu, la créativité chez leur enfant. Alors, vous nous disiez déjà varier les activités, varier les types de jeux, varier les types de supports. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ?
Bon, c'était ça aussi l'idée de ne pas les déranger au minimum et de ne pas trop interférer avec la qualité de leur jeu et surtout avec le déroulé de leur jeu. Moi, je me souviens c'est un cas d'enfant d'une petite fille de 3 ans et demi, mais ça avait paru assez symbolique comme situation. Il y avait une petite fille qui était en train de prendre une poupée et de la mettre au four, je sais plus, quelque chose comme ça, un truc d'adulte. Et la professionnelle, je me souviens qu'elle est arrivée, elle a dit, mais enfin, Natacha, mais les poupées, ce n'est pas au four, les poupées, on les câline comme ça. Elle a fait la gestuelle, elle a montré à l'enfant. Et l'enfant étant propre à l'imitation, forcément, à cette tranche d'âge-là, la petite fille a fait pareil. Vous voyez, ça, typiquement, c'est le truc, alors, on fait tous, hein, ces boulettes-là. Le côté trop intrusif du parent ou de l'adulte, à éviter de faire, parce qu'en fait, du coup, on va brimer la créativité et l'imagination naturelle de l'enfant pour imposer notre propre vision des choses. On a vraiment tendance à le faire naturellement, parce qu'on se dit que c'est un apprentissage de jeu, mais en fait, à la base, c'est pas un apprentissage, c'est l'activité qui est libre et spontanée. Mmh. Même si on est tenté, des fois on a envie, c'est plus fort que nous, résistons.
Mais là, du coup, dans ce que vous dites, ça me fait penser là aussi à des parents que j'accompagne, qui disent que leur enfant n'arrive pas à jouer seul. Comment on peut accompagner son enfant à jouer seul ?
Alors ça, c'est une excellente question et ils sont beaucoup effectivement de ne pas arriver à jouer seul. En fait, ce qu'on peut conseiller déjà, c'est de les faire jouer dans le silence. On sait aujourd'hui que tout ce qui est écran, tout ce qui est jeu électronique, enfin c'est vraiment une horreur je pense, le marketing jeu électronique, tout ce qui est musique de fond, tout ce qui est télévision de fond, vont agir chez l'enfant comme chez l'adulte comme un simulateur de présence. En fait, ça vient simuler une présence. En fait, il y a des enfants qui ne sont jamais seuls. Déjà au niveau sonore, c'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, des fois, ils ont la radio en fond, après, ils ont fabriqué l'histoire sur la tête en fond quand ils vont à l'école, après, ils ont les écrans, ou alors ils ont les écrans après l'école. En fait, il y a toujours du son qui les empêche en fait, d'être seuls. Et quand on coupe toute stimulation auditive dans l'environnement sensoriel de l'enfant, on lui apprend déjà à être seul pour de vrai. C'est bête, mais ça marche comme ça, en fait. Et après, plus on apprend à l'enfant à être seul pour de vrai, plus on développe aussi son autonomie psychique et du coup, sa capacité à être seul et à jouer seul. Après, jouer seul, toute limite. Hein. Genre, un enfant de moins de 5-6 ans, il va vouloir jouer avec l'adulte à côté, en position phare. Mais l'enfant plus grand, c'est possible. C'est un reconditionnement, en fait.
Alors là, ça m'évoque d'autres situations. Et puis là, notamment, on voit bien, vous parliez de la dimension commerciale pour les tout-petits. On voit tous ces jeux dits d'éveil, où les parents se sentent obligés d'acheter 40 000 jeux alors que le bébé est à peine né. Et voilà, les jeunes mamans que j'accompagne, elles sont là, je stimule, je fais avec le hochet. En plus, souvent, elles disent qu'elles se sentent un peu ridicules de faire ça. Mais du coup, finalement, de faire ça, ça alimente une hyperstimulation permanente qui va pas permettre dès tout petit, finalement, des bébés aux bébés d'apprendre à être seul.
Non, mais oui, complètement, en fait. Les jeux d'éveil, les jeux qui font de la musique ou qui mettent des lumières ou des sons sont complètement, complètement déconseillés pour n'importe quelle tranche d'âge, en fait. En fait, le problème de ces jeux-là, de ces jeux d'éveil ou de ces jeux un peu trop intrusifs sur le plan sensoriel, ça va sans arrêt capter l'attention de l'enfant, l'attention qu'on appelle involontaire. C'est-à-dire qu'involontairement, l'enfant, quand il voit une lumière arriver, il va tourner la tête. Et ce parasitage va freiner le développement de son attention qu'on appelle volontaire, qu'on a vu tout à l'heure, celle qui va jouer dans les apprentissages ultérieurs. Donc, du coup, effectivement, quand on a un bébé, mais n'importe quel âge, j'ai envie de dire, hein, qu'il ait 40 ans ou 6 mois, c'est pareil, quand il joue, quand il explore, quelle que soit la terminologie qu'on choisit, hein, donc mettre le silence, ne pas le déranger, et quand on apporte la stimulation, avoir une stimulation qui est adaptée aussi à son attention, ne pas être dans le trop, en fait, ne pas être dans le trop intrusif tout le temps. Son cerveau a besoin d'être au repos aussi, en fait, et ça ne permet pas ce repos-là.
Oui, ce que nous disait aussi Patrice Huère, qui est venu intervenir dans un épisode sur les écrans, qui disait quand il y a tout le temps aussi des écrans dès très petit, bah, l'enfant étant tout le temps hyper stimulé, ça va favoriser des conduites addictives par la suite, bah, le besoin d'être aussi tout le temps hyper stimulé.
Oui, alors les écrans, c'est vraiment le jeu, je pense que c'est un jeu catastrophique sur le plan du développement cognitif. D'ailleurs, les études montrent que plus l'enfant joue aux écrans ou consomme les écrans de manière précoce et ou intense, plus il a risque d'avoir un trouble de l'attention, plus il a risque d'avoir un trouble du langage et plus il a risque d'avoir une scolarité difficile. Ça, c'est très bien corrélé dans les courbes aujourd'hui, effectivement, donc c'est très déconseillé. Ouais.
Du coup, par rapport à ce que vous nous disiez, Héloïse, je me suis dit, bah, alors, il y a des bons jeux et puis il y a des mauvais jeux.
On peut dire ça comme ça.
Donc, les mauvais jeux, là, vous nous dites les écrans, tous les jeux qui vont être hyper stimulants d'un point de vue sensoriel. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses?
Ben, je dirais que non, finalement. C'est vraiment tout ce qui est artificiel, en fait. Enfin, tout ce qui est créé par l'adulte, pour l'adulte, un peu, pour lui faire plaisir. Donc, tout ce qui est joué trop éducatif, ce ne sont pas des bons jeux. Après, tout jeu peut être intéressant s'il est accompagné de l'adulte. Par exemple, on prend, je sais pas, une application mobile, un écran pour un enfant de 7, 8, 9, 10 ans. Si l'écran sert de médiateur entre l'enfant et l'adulte, si on échange autour, si on argumente ensemble, si on rebondit ensemble, ça recrée une relation humaine et du coup, ça recrée un peu de l'intérêt. Mais en tant que tel, ça n'aura pas vraiment, vraiment, je trouve, d'intérêt, d'impact.
Qu'est-ce que le parent peut mettre d'autre en place, voilà, dans l'environnement pour favoriser le jeu et la créativité?
Alors, je dirais de ne pas trop surcharger visuellement l'environnement. Parce que souvent, effectivement, on a cette connaissance que c'est bien de mettre à disposition les jeux pour les enfants. Ça, c'est clair que c'est très bien. Mais souvent, ce qu'on va retrouver dans les domiciles, et d'ailleurs, c'était pareil chez moi pendant un temps, hein, c'est qu'on a tellement de jeux à dispo qu'on a des boîtes partout. Et visuellement, en fait, ça accroche tellement l'attention de l'enfant que ça peut freiner, en fait, sa non-élaboration et sa créativité dans son jeu. C'est-à-dire qu'à force que son regard, en fait, se pose sur des stimuli, en fait, visuels de couleurs différentes, ça peut, en fait, freiner son élaboration du jeu. Donc, en fait, faut mettre à disposition, mais pas trop, et surtout renouveler le stock de temps en temps pour que renouvelle aussi l'attention et l'intérêt de l'enfant.
Donc finalement, les parents pourraient mettre quelques jeux à disposition et puis au bout de 6 mois, on change. Et ouais. Les autres, on les range de tourner finalement comme ça, que l'enfant n'est pas tout le temps à disposition.
Ouais, vraiment, parce que ça surcharge vraiment trop visuellement. Après, pour les plus grands, voilà, Victorine a des filles de 5 et 7 ans, du coup, là, à leur âge, elles vont chercher directement les jeux dans les armoires, c'est pas mal. Visuellement, c'est plus soft, parce que les armoires, mais c'est plus pour les petits où ça, le problème se posera, je pense. J'ai mis une Thiago 2 ans, il n'a pas encore l'idée d'aller voir dans l'armoire son jeu. Il veut aller voir, je sais pas, une espèce de tortue en carton qui est au bout de la pièce. Et là, boum, il tombe sur une balle en mousse rouge à côté de lui. Enfin, visuellement, parce qu'il n'aura pas cet autocontrôle, il ne va pas se dire, voilà, je vais mettre de côté pour l'instant mon projet tortue pour aller voir le projet balle. Il va sans arrêt être parasité, en fait, parce qu'il est encore jeune. C'est pas de sa faute.
Mais du coup, là, vous nous dites que même si l'enfant est grand, quand il va chercher par lui-même, il faut quand même que ça soit rangé, que ça soit pas forcément visuellement saturant, quoi, ou sensoriellement saturant.
Oui, c'est ça, vraiment que ça soit rangé et ordonné, en fait, pour que l'enfant aussi ait une grande autonomie pour aller chercher son propre jeu. Et toujours aussi ranger à la même place. C'est intéressant que l'enfant ait vraiment une grande autonomie aussi pour trouver son propre jeu. Parce qu'on demande aux parents, voilà, il est où mon déguisement Reine des Neiges, par exemple? Bon, si on range toujours au même endroit, comme ça, l'enfant peut y aller de lui-même.
Le rangement après le jeu est quelque chose d'important?
Voilà, il y a plusieurs écoles. Et, bon, moi, je pense qu'effectivement, c'est important parce que ça clôture une activité. C'est aussi important pour l'adulte parce que bon, on a marre de ranger. Et de toute façon, le rangement, c'est aussi un code qui est sociétal très important et il faut qu'ils apprennent à ranger dès le plus jeune âge. Après, quand on voit aussi toutes les tâches, par exemple ménagères ou l'enfant qui range tout seul ou l'enfant qui lave la table, on sait que c'est des tâches qui sont extrêmement précieuses aussi pour le développement de ce qu'on appelle ces fonctions exécutives qui seront aussi favorables aussi à cet apprentissage. Donc, effectivement, toutes ces tâches-là, même si elles représente un côté ingrat pour l'enfant sur le moment, il faut en faire quelque chose d'un petit peu fun et automatique pour que l'enfant y prenne plaisir au bout d'un moment. Et puis de toute façon, il n'a pas le choix, effectivement. C'est un code sociétal, mais c'est important de le respecter aussi.
Oui, puis souvent, quand même, petits, les enfants, ils sont hyper contents hein, qu'on les invite à débarrasser le lave-vaisselle, à leur donner des missions dans la maison. Ça leur donne aussi de l'importance.
Oui, mais en grandissant, non.
Ouais.
Ils valent plus en grandissant. Pourquoi? C'est vrai qu'à la base, c'est fun. Ça, c'est bon comment on prend le projet, mais ça peut être extrêmement valorisant. Et pour un préado de 11 ans, c'est foutu. On peut plus du rêve.
On n'a pas abordé la question du corps. Voilà. Est-ce que c'est important que ça soit des jeux qui mettent plus particulièrement en mouvement le corps? Parce qu'il y a les jeux où l'enfant va être posé, concentré, des jeux où, pour le coup, le corps va être plus mis en mouvement, en action.
C'est vrai que généralement, le corps est plus en mouvement à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a dans nos sociétés un peu plus sédentaires, on vit plus en fait dans des lieux clos, on a tendance à moins faire sortir les enfants. Et du coup, ils auront un temps journalier extérieur en dessous de ce qui est recommandé pour leur tranche d'âge. Alors, j'ai plus en tête les normes en fait et les tranches idéales pour faire sortir l'enfant dehors, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les enfants ne sortent pas assez. Et dès qu'il pleut un petit peu, dès qu'il fait un petit peu froid, dès qu'il brûle un petit peu, on a tendance à les surprotéger avec toujours cette obsession en fait un petit peu de la sécurité pour ne pas qu'ils attrapent froid, pour ne pas qu'ils aient froid, pour ne pas qu'ils soient inconfortables, pour pas qu'ils soient sales. Et donc, du coup, on va limiter en fait leur jeu moteur extérieur. Or, on sait, les études nous montrent, les études longitudinales qui portent sur entre 1 et 5, 10 ans, que les enfants, plus ils sortent tôt dans leur petite enfance, plus ils sont habitués aussi à bouger leur corps et bouger leur corps à l'extérieur, plus après, ils auront une appétence pour bouger leur corps naturel à l'âge de la scolarité, dans l'âge scolaire entre 6 et 10 ans. Et du coup, plus ils seront bons aussi sur le plan moteur. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça rebondit aussi sur le plan de tout à l'heure. On disait justement, je parlais des jeux moteurs tout basiques, par exemple, on va dire sauter sur le canapé ou sur le matelas, par exemple. C'est quelque chose qui est très mal vu, c'est une famille, c'est vu comme un enfant mal élevé, l'enfant qui va sauter sur le matelas à la maison. Or, on sait que c'est un jeu qui est extrêmement stimulant pour l'enfant. C'est un jeu qui va tester son équilibre, sa coordination, sa capacité de rebondir, comme le toboggan à l'envers. Remonter le toboggan à l'envers, c'est énormément de bienfaits sensoriels et psychomoteurs pour un enfant. Donc, les enfants, en fait, à qui on permet dès le début de leur vie, finalement, d'explorer le monde selon leur propre propriété corporelle, ce seront les enfants aussi qui seront plus débrouillards au niveau corporel, qui auront une meilleure gravité, un meilleur sens de l'orientation et de l'équilibre que d'autres enfants en fait. Donc il y a vraiment deux grands groupes d'enfants qui se dessinent vers l'âge de la scolarité en fonction de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants quand ils étaient sous leurs parents.
Oui, en tout cas, là, vous nous dites bien que le parent qui arrive à se dégager des règles un peu préétablies ou des règles sociales, là, je pense à la question du toboggan, et le parent qui va laisser son enfant remonter à l'envers le toboggan, ça va aider finalement l'enfant à développer ses capacités. En tout cas, plus il sera libre, l'enfant, de s'approprier, mais ça demande aux parents de lâcher prise parfois sur un certain nombre de représentations ou de règles intégrées ou de laisser son enfant salir. Je sais que pour beaucoup de parents, c'est compliqué, ça.
Mais oui, c'est vraiment purement culturel, vraiment extrêmement à 300% culturel. Et c'est que le coup du toboggan dans le parc, si vous êtes le parent, alors comme c'est mon cas, je l'avoue, qui laisse son enfant remonter le toboggan en pieds nus, parce que quand même, meilleure adhérence, les pieds sont nus, même en hiver quand il fait froid, parce que meilleure adhérence, c'est ainsi, pour éviter qu'il glisse. On se prend beaucoup de réflexion des parents, effectivement, qui n'ont pas cette culture, cette connaissance de l'enfant. Et généralement, enfin, c'est la question, mais dans les parcs, c'est vraiment les parents qui laissent monter les enfants à l'envers. C'est souvent soit les psychomotriciens, on les voit tout de suite, soit les éducateurs, en gros, soit des psys. Enfin, c'est vraiment des parents généralement qui ont une culture assez, assez fine de l'enfant et qui sont prêts à prendre le risque d'avoir des réflexions de leurs congénères. Donc, c'est qu'ils sont vraiment dedans.
Oui, ils savent que ça a du sens et ils sont prêts à le défendre et à soutenir leur enfant.
Ça, on peut y aller. Hein.
Vous nous disiez aussi tout à l'heure, Héloïse, l'importance du jeu par rapport à la relation. Vous avez vraiment souligné l'importance que ce n'est pas forcément le fait de jouer avec son enfant, mais c'est le fait d'avoir du plaisir qui est le plus important. Quel autre impact ça a dans la relation avec le parent, le jeu ?
Ça va vraiment contribuer, alors d'une certaine manière, en tout petit peu, mais à la création du lien d'attachement et du lien de confiance entre le parent et l'adulte. C'est qu'en fait, ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'en fait, dans l'épisode de jeu, des émotions vont ressortir au niveau de l'enfant, de la créativité, du plaisir. Et le fait que le parent soit aussi là pour accueillir tout ça dans la relation, pour mettre des mots dessus, pour accompagner, pour rebondir peut-être au moment du repas sur ce coup à quoi l'enfant a joué pendant l'épisode, c'est favorateur de créateur de liens et toujours avec cette question du développement langagier. Dès qu'il y a l'adulte et enfant, on parle vraiment de développement langagier de l'enfant. enfant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une étude justement qui montrait, qui comparait une dyade adulte-enfant. Ils jouaient tous les deux. Ils avaient pris un premier groupe où les deux jouaient avec un livre, donc ils lisaient une histoire. L'autre groupe jouait avec un jouet électronique et l'autre groupe ne jouait à rien. Donc, il n'y avait pas de consigne claire. Et en fait, les chercheurs ont évalué l'épisode de jeu parmi les trois groupes qui avait le plus de verbalisation de propos adaptés à l'égard de l'enfant, donc, ce qui était le plus favorable pour leur développement langagier et la création aussi de liens entre les deux. Et en fait, il se trouvait que c'était clairement plus le groupe adulte-enfant avec livre et adulte-enfant sans support du tout, donc création libre de jeu, qui avait le plus de verbalisation réciproque entre l'adulte et l'enfant.
Oui, que le jeu électronique finalement empêchait la relation, ou limitait la relation en tout cas.
Ça freine les verbalisations en fait, ça freine effectivement les paroles de l'adulte adressées à l'enfant. Parce que du coup, l'adulte est plus passif, en fait. Et donc, du coup, ça peut être soulageant, c'est un moment, on n'a plus trop envie de jouer, on est fatigué, voilà, on est vendredi, 18h, on se dit, on a passé toute la semaine avec les enfants, c'est compliqué. Ça peut être soulageant pour l'adulte, pour le langage, mais aussi dans la relation.
Donc, si le parent n'aime pas jouer, il peut lire.
Ouais, alors lire, c'est génial. Effectivement, pour le langage, hein, c'est pas jouer de valeur, mais effectivement, c'est ce qui est très conseillé, ouais, complètement.
Et là, dans ce que vous nous dites, et par rapport à ce que vous disiez aussi, voilà, d'apprendre à l'enfant à être seul, voilà, en limitant les stimulations extérieures, voilà, ça m'évoque aussi d'autres parents que je peux entendre qui me disent bah, « il fait rien, il est dans son lit, tout seul, il veut rien faire ». Du coup, là, ça m'évoque la question de l'ennui. Quel est votre point de vue par rapport à ça ?
Alors, c'est vrai que l'ennui, ça fait très, très peur aux adultes. C'est rigolo, ça. Je pense que l'ennui ennuie profondément les adultes. Alors, en fait, je pense qu'on vit dans une société, pas que je pense, mais c'est comme des travaux, on est dans une société qui est très axée sur la productivité, sur la stimulation aussi très intellectuelle, hein, plus que motrice, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, du coup, on va avoir l'ennui comme une perte de temps, de dingue, comme un signe un peu de déprime, de malaise. Et on va surtout éviter que notre enfant s'ennuie. Comme si ça crée vraiment une perte de chance pour son avenir. C'est un peu ce que je ressens, en fait, quand les parents m'en parlent. Et en fait, quand on regarde l'ennui, n'existe pas dans la nature. Quand on voit, il y a des cultures qui n'ont pas de mots pour désigner l'ennui. L'ennui, c'est vraiment une création qui est culturelle, qui est une création de cultures qui sont sédentarisées et aisées comme la nôtre, et en fait, qui ne passent pas leur journée à se battre pour pouvoir survivre ou manger. Et donc, en fait, quand on regarde bien, dans des cultures, finalement, où la survie est un combat de tous les jours, ils n'ont pas le luxe de s'ennuyer. L'ennui est vraiment un luxe des sociétés sédentarisées. Donc, du coup, je ne sais même pas si c'est de l'ennui, d'ailleurs, ou si c'est juste de la oisiveté, ou c'est juste le fait de ne pas avoir de petites fantaisies. Au contraire, c'est plutôt positif pour son développement. D'ailleurs, ce qu'on remarque dans les imageries aussi cérébrales, hein, c'est que quand on met, par exemple, un adulte en IRM, on le met en train de lire un livre, ou alors en train de réciter une liste, ou alors en train d'avoir une action précise, on voit que certaines parties de son cerveau s'allument, des petites parties extrêmement précises. Alors que quand on demande juste à l'adulte voilà, de rêver, de penser à rien, à ce qu'il veut, du coup, on voit que tout le cerveau, une grande partie du cerveau, en fait, commence à se mettre en route. Et on ne pose pas d'objectif justement dans la tête d'un adulte ou d'un enfant, parce que ça va mobiliser beaucoup plus de parties de son cerveau et du coup, une plus grande créativité et une imagination, forcément, par la suite. Donc, au contraire, effectivement, ne pas avoir peur de l'ennui en tant qu'adulte et se dire que l'enfant s'ennuie pas. C'est nous qui nous projetons comme ça en tant qu'adulte.
Donc, pas forcément en tant que parent, tout le temps proposer une activité, un jeu. Voilà, on peut laisser du vide aussi.
Beaucoup de vide, c'est pas mal, ouais. Pour l'attention de l'enfant déjà, pour sa fatigue sensorielle aussi. C'est très important, ouais, d'arriver à faire ça, en fait. Et quand ton enfant dit « Ah, je m'ennuie », parce que le pauvre, il est victime de la société, hein, va arriver à lui dire bah, « Écoute, attends, j'ai un jeu de société pour toi, attends, on va bien s'amuser tous les deux. Ouais. » Éviter ça, en fait, justement. Lui apprendre à profiter du temps libre pour réfléchir.
Ouais, de ne pas combler systématiquement, finalement.
Ouais, comme on le ferait pour nous, en fait. Voilà.
Est-ce que ça arrive, Victorine, que vos filles s'ennuient ?
Sans doute, oui, oui.
Ne fassent rien.
Voilà. Bah, par exemple, ma deuxième, parfois, vient me voir en me disant qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas. Bon, elle ne sait pas. Bon, je dis, bah, viens, regarde, je suis en train de cuisiner. Accompagne-moi, tu vas mettre le couvert, ce genre de choses. Ou alors, je l'accompagne dans la chambre et j'essaye de lui montrer des choses qu'elle aime bien, ressortir des feutres, les feuilles. Enfin, je suis au taquet, en fait. Je suis peut-être un peu trop au taquet. Genre, oulala, attention, elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'aider ?
Donc, il y a cette idée de trouver une activité.
À fond. Après, je sais qu'elle aime beaucoup lire. Donc, c'est vrai que sortir, parce que les livres sont rangés aussi. Et du coup, les sortir, ça marche toujours parce que pour le coup, ma deuxième fille vraiment aime beaucoup lire et elle adore ça. Et c'est vrai que si on lui montre soit sa dernière histoire, etc., elle se réfugie complètement dedans. Ou alors je lui sors d'autres jeux. Mais c'est vrai que je l'accompagne et je m'assois et je prends 5 petites minutes histoire qu'elle se mette dedans. Et après, je repars préparer ce que je devais préparer. Mais c'est vrai que c'est jamais évident de se retrouver face à cette situation. Ou alors, ouais, je sais pas, ou peut-être l'accompagner. Et je sais pas si c'est le moment de la sieste, bah, qu'on s'allonge toutes les deux sur le canapé, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, peut-être retrouver le bon moment. En tout cas l'apaiser, mais c'est vrai que me dire maman je sais pas quoi faire, c'est une question pas facile.
Héloïse, quand il y a des enfants d'âges différents et qu'on a envie voilà, de jouer en famille, quel type de jeu on peut proposer? Comment on peut jouer finalement avec des enfants d'âges différents?
Alors, tout dépend de l'âge des enfants, en fait. Parce qu'il y a des âges... Je pense que le 5-7 ans, il est pas mal, parce que du coup, elles sont toutes les deux plus dans une forme d'élaboration. Typiquement, ouais, moi, à la maison, j'ai 1,5-5 ans. Et c'est le jour et la nuit. Et en fait, il faut trouver des jeux qui correspondent aux compétences cognitives de chacun, en fait, qui sont suffisamment généralistes pour que chacun puisse jouer. Et après, ce que je fais souvent, c'est le cas de toutes les familles, hein, c'est pas original, mais par exemple, je sais qu'il y a des jeux comme le jeu du Whistiti, par exemple, où c'est une espèce de tour, on met des petits Whistiti sur des bâtons, il faut tirer les bâtons, et après, Whistiti tombe. Ça, c'est un jeu qui amuse vraiment toutes les tranches d'âge, généralement, sauf jusqu'au préadolescent. Et en fait, ce jeu-là, typiquement, avec un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il le fera très correctement, parce qu'il a compris la règle. Un enfant de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, mais il va être plus dans la destruction, parfois dans l'exploration, je le lance les bâtons à l'autre bout de la pièce, parce que c'est plus l'impulsivité motrice qui s'agit à cet âge-là. Donc, du coup, ça peut être, en fait, d'essayer de trouver une règle qui soit conforme pour les deux. C'est-à-dire, le grand va jouer correctement, mais le petit, c'est ce que je fais, c'est le petit qui va, par exemple, lancer le dé, quand ce sera son tour, ou avoir donner une consigne extrêmement claire et précise pour que le petit arrive aussi à contribuer au jeu. C'est-à-dire, voilà, toi, tu tires le bâton, toi, tu lances le dé, parce que c'est à la hauteur de ses compétences d'enfants de 1 an et demi ou 2 ans. C'est très compliqué, je trouve, les différences d'âge entre les enfants.
Oui, en tout cas, ça peut amener justement aux fameuses disputes parce que le grand respecte la règle, joue, et puis le petit va casser le jeu. Donc, ça met le grand hors de lui.
Les différences d'âge, au début de vie, c'est extrêmement compliqué parce que ni le grand ni le petit n'ont d'autocontrôle, en fait. Donc, ils vont forcément être impulsifs et vouloir taper l'autre en cas de désaccord.
Dans ce cas-là, finalement, il vaut mieux différencier les jeux.
Bah, soit trouver des jeux avec des règles communes qu'on essaie de un petit peu de nuancer, avec des tâches adaptées à leurs compétences, soit effectivement différencier les jeux, mais c'est intéressant aussi de pouvoir jouer tous ensemble. C'est compliqué, effectivement. Là, il faut être créatif sur le coup. On nous adulte.
Par rapport à la question des disputes, puisque Victorine en parlait, est-ce que voilà, vous auriez quelques conseils à donner aux parents pour éviter les disputes autour du jeu?
Alors, ce qui est intéressant, en fait, les disputes, les fratries, enfin, les conflits dans la fratrie, même conflits d'ailleurs soit en maternelle, n'importe quel groupe d'enfants, ce qui est bien, c'est que ces conflits-là sont une excellente occasion pour développer ce qu'on appelle chez eux les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire de vivre en collectivité, de compréhension de l'autre, d'empathie, etc., etc. Et en fait, le principal conseil que je donne aux parents quand ils ont des conflits dans leur fratrie, c'est de c'est de sortir du qui a tort qui a raison. En fait, le côté qui a tort qui a raison, le côté un peu, juge qu'on peut avoir en tant que parent quand on a un conflit en face de nous et qu'il y en a un qui a clairement tort et un qui a clairement raison, c'est de tomber dedans, en fait. Et ce côté qui a tort, qui a raison, ou qui a été victime, qui est agresseur, ne peut qu'amplifier le désaccord entre les enfants et du coup freiner leur empathie mutuelle. Donc au contraire, il faut essayer de recréer du lien avec eux en essayant de comprendre ce qui s'est passé avec beaucoup d'objectivité et surtout en essayant de comprendre à chaque enfant ce qu'a ressenti l'autre en termes d'émotion. C'est vraiment une excellente initiative, en fait, pour faire développer leur empathie mutuelle pour les deux enfants. Même si vraiment c'est gros comme une maison et qu'on sait très bien que le grand tapait le petit... Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a une raison. Voilà, il faut essayer de sortir de ça, justement. Mais c'est pas simple.
Bien sûr. Là, je pense aux enfants qui jouent pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter en tant que parent ou à quel moment il faut s'inquiéter autour de cette question du jeu ou du non-jeu?
Alors, c'est compliqué parce que là, on parle peut-être plus de troubles. Vous voulez parler des troubles possibles. Enfin, je pense que tous les enfants jouent, en fait. Tous. C'est juste qu'ils vont jouer à des jeux qui sont très différents. Par exemple, si un enfant joue, il prend une petite voiture, il fait... comme ça, il explore un monde et puis il imite l'usage du jeu selon l'adulte. C'est un jeu qu'on pourrait dire d'adapter pour sa tranche d'âge. Imaginons qu'il a 2, 4, 6, 7 ans, 10 ans. Mais par exemple, si l'enfant il prend une petite voiture, il ne va pas faire, il va pas tomber dans l'imitation, mais va plus les aligner de manière répétée avec son jeu sera plus basé sur une forme de manipulation rudimentaire qu'une forme d'élaboration. Effectivement, on peut plus s'inquiéter sur son développement s'il y a d'autres signes cliniques associés. Mais ça peut être un des signes, effectivement. C'est que beaucoup de, j'ai fait beaucoup de dépistages, par exemple, de TSA, du trouble du spectre autistique dans les crèches pour les moins de 3 ans et demi. Et effectivement, l'un des critères, c'était l'observation du jeu, voir comment l'enfant joue. Et je me demandais souvent pour ça, je dis, mais comment il joue? Est-ce qu'il joue la poupée? Est-ce qu'il parle quand il joue? Est-ce qu'il fait du bruit quand il joue? Est-ce qu'il aligne? Est-ce qu'il aligne pas? S'il aligne, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un embouteillage ou est-ce que c'est juste un élément un peu mécanique des jeux, etc., etc.? Effectivement, c'est un très bon indicateur de son développement.
Du coup, là, finalement, vous nous dites quand il y a de la variété dans le jeu, quand il y a du langage, quand on retrouve toutes les dimensions. Du coup, ce qui me vient, c'est un enfant, par exemple, qui jouerait que à un type de jeu ou à un jeu agressif, par exemple. Est-ce que ça doit alerter le parent? Si ça n'est que ça?
Oui, bien sûr. C'est un jeu avec toujours une connotation, une émotion agressive associée, beaucoup de frustration, de colère. Effectivement, ça devrait complètement alerter. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on voit les jeux des enfants, j'en ai vu des fois... enfin, en crèche, des enfants qui jouaient vraiment à un bonhomme qui se faisait systématiquement mal à un autre bonhomme et ils se tapaient toujours les uns sur les autres, mais sans arrêt. Et en fait, c'était sans arrêt des jeux de combat à l'âge de 2 ans, 3 ans, et ça m'a marqué parce que, effectivement, il ne faisait que ça, en fait. Cette colère-là n'est pas naturelle, autant. Autant qu'on envoie le poupon sur la baie vitrée, bon.
Quand le petit frère ou la petite sœur vient de naître, c'est à peu près normal.
Autant jouer au jeu de combat tout le temps quand on a 2-3 ans et faire mal à l'autre avec cette expression faciale de colère ou de tristesse associée, c'est moins normal, c'est plus interpellant en fait.
Oui, là, ça me fait penser aussi lorsque dans les jeux d'imagination comme ça, chez les tout-petits, on va retrouver des jeux à connotation sexuelle. Là aussi, ça peut en tout cas alerter, voilà. Ça mérite d'aller explorer ce que vient de dire l'enfant à cet endroit-là.
Non, tout le vocabulaire, en fait, qui peut être un cas, ce n'est pas du tout instinctif pour l'enfant de cette tranche d'âge-là. Effectivement, tout est interpellant dans ces cas-là. Et là, comme les dessins, comme tout, en fait, on va tout prendre au peigne fin, donc comme psy, éducateur, et on va voir ce qui se passe dessous, effectivement. Ouais. Très bon signe d'alerte, oui.
Comme vous nous l'avez bien dit, Héloïse, la créativité, le jeu contribuent au bon développement de l'enfant. L'importance de favoriser vraiment l'exploration libre et d'essayer de la faire durer le plus tardivement possible. Et puis pour les parents, entendu dans ce que vous nous disiez, l'importance de se décaler, de laisser tomber un peu les représentations, les règles, les codes pour voilà, favoriser cette exploration le plus possible chez l'enfant. Et puis, c'est pas obligé de jouer avec son enfant. Et l'important, c'est de trouver du plaisir. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Héloïse, est-ce que vous auriez quelque chose, des lectures ou des vidéos voilà, sur cette question du jeu pour les parents qui auraient envie d'aller plus loin?
J'ai un bon livre en tête que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui est d'une amie Josette Serre. Je crois que ça s'appelle Laissez-les explorer. Alors, qui parle des petits, mais aussi des moyens et des grands, finalement, différentes tranches d'âge. Et elle montre, elle déconstruit à chaque fois justement certaines idées qu'on pourrait avoir sur un jeu. Et elle montre les bienfaits pour l'enfant en termes de découverte des lois métaphysiques, en termes d'exploration, en termes de relations de cause et effet avec son environnement. Et du coup, elle montre à quel point, en fait, chaque jeu qui paraît anodin, comme par exemple un enfant de 10 ans qui saute dans une flaque d'eau, c'était favorable, en fait, au développement de ses connaissances et de sa découverte du monde physique qui l'entoure. Donc, en fait, ce jeu est vraiment bien fait. Je crois que ça s'appelle Laissons-les explorer, je crois, chez cet éditeur Chronique Sociale, que j'oublie toujours. Que je trouve vraiment extrêmement bien fait. Un peu trapu parfois, mais c'est son style à mon ami, mais bien fait.
Alors moi, je recommanderais le grand livre des activités récréatives, voilà, qui est un livre qui propose des choses très concrètes voilà, pour guider les parents, pour les aider à développer la créativité de leurs enfants, qui est un livre d'Elena Zajcik. Un très grand merci, Victorine, d'être venue partager avec nous vos questions et la manière dont vous jouez au poney avec vos filles. Merci beaucoup, Héloïse Junier. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, conférencière, formatrice et autrice. On peut retrouver toute votre actualité via votre page Instagram, mais aussi sur votre site internet héloïsejunier.com. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, Mathilde.
Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.